dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui, Dissonance vous invite à découvrir une histoire. L'histoire d'une aventure collective, l'histoire d'une épopée humaine. C'est l'histoire d'un canal imaginé par des anciens il y a 150 ans. C'est l'histoire aussi de ceux qui se battent encore et toujours pour l'entretenir et pour le faire vivre. C'est aussi le regard des enfants d'aujourd'hui sur cet ouvrage du passé qui a servi à l'agriculture et qui sert aux jardiniers encore aujourd'hui. Et ce qui sera certainement aussi l'histoire d'un joyau du rougier dans les années à venir.
Écoutez-le vouloir, le plat-pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien.
Ici, ce canal, le canal de Montlore, dans le Saint-Africain, dans le Sud-Aveyron, puisque c'est de ce canal qu'il s'agit, ne s'est pas perdu et encore moins pendu. Il serpente sur une dizaine de kilomètres, rive droite et rive gauche du Dourdou, en direction de la plaine de Montlore. Dans Dissonance, des voix multiples vont nous donner envie de partir à la découverte de ce canal, presque aussi mythique que celui de Pagnol dans le château de ma mère.
Bougigue ! Qu'est-ce que tu fais là ?
Moi ? Je fais mon travail, mon monsieur Joseph. Je suis piqueur au canal. Et c'est grâce à vous, je peux le dire. Hein. Vous en êtes donné du mal pour mon certificat d'études. Et voilà, je suis piqueur.
Mais piqueur, mais qu'est-ce que tu piques ?
Enfin, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose. Piqueur, ça veut dire que je surveille le canal.
Avec une pique ?
Mais non. Avec cette clé à thé. Et ce petit carnet noir. Avec la clé, j'ouvre et je ferme les prises. J'en contrôle le débit. Si je vois une pente dans la berge ou un petit pont qui devient faible d'airain, je le note dans mon carnet et le soir, je fais mon rapport.
Ça n'a pas l'air bien fatigant.
Oh non, pour ça, ça n'est pas le bagne. Et puis dites, brave comme je suis, qui c'est qui voudrait m'envoyer au bagne? Je n'ai jamais rien fait de mal.
Sauf pour l'orthographe.
Oh mais ça, j'ai fait des progrès à force de remplir mes procès-verbales.
Garbeau.
Oui, dites, monsieur Joseph, je ne connais plus.
Les prises du canal du Garlaban n'ont rien à envier aux pariers du canal de Montlore.
Et en Occitan, on l'appelle comment? Il vous a dit, Claude, tout à l'heure?
Un
parier.
Un parier. Regardez, il y a une grosse poignée pour le soulever. Vous voyez? Et la chaîne, pour pas que ça n'aille.
Il faut partir à leur découverte. C'est ce que nous invite à faire aujourd'hui Yves, Claude, Jackie, Robert et Francis, ainsi que les enfants de l'école de Montlore. Dissonance, les 150 ans du canal de Montlore. Évoquer l'histoire de ce canal, c'est se replonger dans la Troisième République, sous Napoléon III.
Il faut se replacer dans le 19e siècle.
Robert Louis.
Dans les années 1750. Alors, Le problème, c'était les droits d'eau. Il a fallu, et ça, ça a commencé dès la Révolution française. De suite après la Révolution, on a commencé à dire, bon, mais l'eau qui circule là entre deux peut devenir un bien commun, et à condition de l'utiliser rationnellement. Et on a commencé, les lois sur l'eau, et l'utilisation de l'eau, ont commencé par dire, bon, mais le bonhomme qui est riverain des deux côtés de la rivière peut établir un barrage et utiliser l'eau pour irriguer ses terres. Mais il y a eu toute une succession de lois et de décrets qui ont amélioré les choses. Parce qu'au début, il fallait que les gens soient propriétaires des deux côtés. Après, on a autorisé le riverain d'un côté à négocier l'appui de l'autre côté. Puis, en autorisant l'appui de l'autre côté, d'autoriser celui qui est de l'autre côté de la rivière d'utiliser l'eau aussi. Et petit à petit, ces lois se sont mises en place et elles ont été pratiquement installées en 1845, dans ces années-là. Voilà. Et ici, ça a commencé à Camarès, avec le marquis de Gozon, qui a établi le premier barrage pour faire d'abord tourner un moulin, mais arroser ses terres. Bon. Après ça, est arrivé Hippolyte Barascut, qu'on a appelé le buveur d'eau. Mais parce que c'est lui qui s'est mis en tête d'irriguer la vallée du Dourdou, depuis Camarès, jusque au Cambon, là-bas, plus loin que le Cambon. Bon. Alors, c'est lui qui a commencé à bâtir des projets dans le coin, et le premier qu'il a bâti, c'est l'usine du marquis de Gozon, c'était rive droite, et Briols, c'était rive droite, et lui est parti du même barrage, mais rive gauche, pour arroser les plaines jusque à Verrières, sous Verrières, par là, la plaine Philippis, ça s'appelle. Et voilà, jusque-là. En utilisant d'ailleurs les dernières lois de l'époque qui ont permis d'utiliser les fossés des routes pour mettre des canaux.
Ce projet de canal deviendra réalité dès 1865. Il commencera à fonctionner dans sa totalité à partir de 1869. Il sera géré par une association syndicale autorisée et parcourra dans la plaine de Montlaur, sur les deux rives du Dourdou, une distance de 10 km 360, avec notamment la traversée du Dourdou dans un magnifique et original pont-canal.
Si vous voulez, moi ce que j'ai ressenti dans cette affaire, c'est qu'à partir de 1856 par là, la mairie de Montlaur voulait son canal. Montlaur voulait son canal et le gérer elle-même. Mais l'Hippolyte Barascut a perturbé un peu tout ça, est venu un peu se mêler de tout ça, et comme il avait des acquaintances avec... C'était un ami du fils de Napoléon III. Donc il était politiquement... D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il s'était fait élire à Sainte-Afrique député. En 1866, par là. Voilà, et maire de Sainte-Afrique et député. Les Montlaurais ont été opiniâtres. Et sont arrivés d'abord à le faire plier dans sa méthode, et puis un peu à le mettre sur la touche.
Et à faire en sorte que les intérêts des Montlaurais soient préservés.
Soient préservés, voilà.
Depuis sa mise en service, l'exploitation du canal se poursuit sur les bases définies par l'arrêté de constitution de l'ASA, l'association syndicale autorisée, qui date de 1868. Bien que les méthodes de culture et d'irrigation aient évolué avec la mécanisation apparue après la Seconde Guerre mondiale et qui a entraîné une nette diminution de la quantité d'eau consommée, eh bien son utilité ne se dément pas, notamment pour les jardiniers qui en bénéficient largement aujourd'hui.
Sur le canal du Midi, il y avait un petit gars. C'est sûr qu'il n'était pas d'ici, ce mec-là, il était de Paris. Seulement Ménilmontant et le canal Saint-Martin. Ça faisait vraiment longtemps qu'il en était trop loin. Il avait un bateau, tout droit planté dans l'eau. Une vieille carcasse pourrie qui était son paradis. Il répétait sans cesse, je retrouverai Barbès. Il en hurlait la nuit, attends-moi Paris. Avec son pote Robert, ils ont fait plein de gasoil. Ils ont joué la file de l'air et ils ont mis les voiles. Sur le canal du Midi, ils étaient tout contents. Ouais, putain que c'est beau la vie quand on remonte sur Paris. Ils voyaient déjà la Seine, le pont de Bercy. Ils en avaient eu de la peine, mais bientôt ce sera fini. Hey. Dans le premier virage, il y eut comme un drôle de bouille, une voie d'eau virage, et le bateau fut vite rempli. Adieu Ménilmontant et le canal Saint-Martin, adieu Pigalle et l'Opéra, adieu Barbès et Gambetta, adieu Répu et Goncourt, adieu la porte de Clignancourt, adieu Pigalle et l'Opéra, je sais plus quel quartier.
Dissonance, les 150 ans du canal de Montlore. Aborder l'histoire de ce canal, c'est faire remonter les souvenirs.
Le meilleur souvenir du canal que j'ai, c'est l'arrosage des jardins.
Jackie Aubignac.
Parce que ma maman était très jardinière et j'allais souvent arroser le jardin avec elle, mais on arrosait le jardin à l'ancienne. C'était pas comme maintenant avec nos tuyaux, c'était vraiment le canal qui inondait le jardin. Et puis il fallait respecter les horaires.
C'était en quelle année ça ?
J'étais petite, je suis née en 49, j'ai pas honte de le dire. Donc c'était dans les années 50, quoi, 50-60. Quand tu arrosais le jardin, tu avais des heures, donc tout le monde se retrouvait un peu à la même heure, avec les jardins les uns à côté des autres, quoi, parce que ça. On ouvrait, ils ouvraient les vannes en même temps, un peu. Ce qui était festif, c'était le curage du canal qu'ils appelaient, mais ça, c'était un travail d'homme, et spécialement d'homme. Le curage du jardin, des canaux, c'était au printemps tout le temps, comme ça se fait encore, d'ailleurs.
Et étant enfant, tu as parcouru tout le long du canal ? Ou tu t'en tenais uniquement au canal et au jardin ?
Non, on s'en tenait au jardin. On n'allait pas se promener trop au bord du canal. Il n'y avait pas les petites balades qu'il y a maintenant. Ça, c'est venu après quand même, les balades au bord du canal.
D'accord. Et ton père, qui s'appelait ?
Monsieur Maurice Arvieux.
Avait été maire de Montlore. Et donc à la maison, tu voyais lors des repas la gestion du canal vue par ton papa. Est-ce qu'il y avait des soucis ?
Mon grand-père aussi au départ. Parce que moi, le grand-père vivait à la maison et ça a été un des premiers à s'occuper des canaux de Montlore. Mais après, là, bon, j'ai des brefs souvenirs. Moi, je te dis, le canal, c'était surtout le jardin, quand on arrosait le jardin. Si, je savais que mon père, la nuit, se levait pour aller arroser certains champs. Parce que ça tournait toute la journée, le canal. Donc, il y en avait qui allaient arroser la nuit, quoi, de telle heure à telle heure. Parce que tu avais des heures, il fallait respecter. T'avais, pour les jardins, t'avais, par exemple, tu n'avais pas beaucoup de temps et tu avais 10 minutes maxi. Quoi.
Qui c'est qui attribuait ces heures d'arrosage ?
Ah ben, il y avait, comme maintenant,
un syndicat.
Un syndicat, c'était un syndicat du canal. Donc, il y avait quelques personnes qui s'en occupaient et qui géraient tout ça. Quoi.
Que des hommes, donc ?
Que des hommes, oui. Les femmes arrivent maintenant. Nous, on va bousculer un petit peu le cocotier, peut-être.
Parce que une nouvelle génération de vieux est arrivée.
Ouais.
Il n'y avait pas une disparité, quand même, entre les gens qui avaient un arrosage la nuit et d'autres un arrosage le jour ?
Non, parce que ça tournait. Chacun à tour de rôle avait la nuit. Hein. De toute façon, ce n'est pas toujours les mêmes qui avaient la nuit et le jour. Hein. Même le jardin, des fois, il te fallait te lever très tôt ou très tard le soir. Bon, c'était attribué comme ça. Mais ça, je te dis, Claude sera plus ferré là-dessus que moi, hein, de toute façon. Moi, c'est des souvenirs d'enfance, en fait.
Toi, tu le vois avec tes yeux d'enfant. Donc, mais je peux te dire que ce soit tes parents ou tes grands-parents, enfin, moi, c'est la perception que j'ai. C'était vital, quoi. Et je pense qu'il devait y avoir des tensions en permanence.
Francis Aubignac.
Sur les plannings d'arrosage. Sur... Oui. Mais comment se fait-il qu'il ait ouvert sa vanne, j'ai plus d'eau. Moi, je sais pas en parler, je peux pas en parler parce que ça, je l'ai pas connu. Mais il y en a qui vont te raconter que c'est sûr que ça se passait comme ça. C'était source permanente de tension puisqu'il y avait une pendule qui indiquait l'heure à laquelle un tel devait changer. Et moi, je suis sûr qu'il y a des fois, ça devait chauffer, quoi. Donc ça.
Oui, ça
parce que
ça,
c'était
c'est...
en fait, c'était si, la vie, si, quoi. Et si t'as pas d'eau, si t'avais pas d'eau, tu mangeais pas, quoi. Donc, toi, ce que tu vois, c'est ta vision en 5 ans, 6 ans. Ouais. Nous, on ne voit rien. En 5 ans, 6 ans, on ne voit rien. On voit que... Mais je suis sûr que nos anciens, c'était vital. Et ils défendaient leurs morceaux, sinon ils crevaient de faim.
Et après, le canal, il y avait une autre petite utilité du canal aussi, au pont, quand il arrive sous le pont, là, c'est facile d'accès. Donc, les gens allaient laver. Et moi, je me souviens des gens qui allaient laver surtout la laine de mouton, parce qu'à l'époque, on gardait la laine de mouton et on faisait des matelas. Et elle était lavée au canal. Ça fait partie des souvenirs, tu vois, un petit peu plus précis.
Une fois qu'on s'est arrêté de travailler et qu'on a commencé à être un peu plus souvent sur Molo, puisque c'est là où finalement j'ai non seulement épousé moi, Jackie, mais j'ai également un peu épousé ses racines, son héritage. Ça me paraît, moi, mais ça c'est affectif, donc il n'y a aucune explication rationnelle. Ce n'est pas l'arrosage, ce n'est pas parce que c'est facile d'arroser dans le jardin. Ce n'est pas mon truc, c'est simplement un problème de... Je trouve que c'est bien qu'il y ait quelque chose d'hérité, et du moment que ça vient des anciens, qu'on le garde, c'est tout. Mais c'est simplement affectif, ce n'est pas un problème...
Que je raconte même une anecdote sur le lavoir, la petite gamine qui était partie sous le pont. C'est moi qui ai ressorti cette histoire que les gens avaient complètement oubliée.
Vous pouvez nous en parler en deux mots, là?
En fait, c'est une petite fille qui a traversé le pont canal, c'est ça?
Ah oui. Et la mère était avec, parce que, vous savez, juste avant le pont, le canal est légèrement surélevé. Et c'était très bien parce que les lavandières avaient l'eau plus à portée de main que quand il fallait utiliser le lavoir qui était sous le pont. Celui du canal était mieux parce qu'il était en eau, mais il ne servait que quand il y avait le canal, c'est-à-dire du 1er mai au 30 octobre.
Et donc cet enfant était avec sa maman dans le lavoir du haut.
Du haut. Et bon, comme tous les gosses, elle marchait à peine, et patatras, elle tombe dans le canal. Et les femmes, elles étaient en train de parler, « Oh, la petite, et elle était partie. Elle était sous le pont. Et il se trouve qu'elle avait, c'était les gosses de l'époque, ils avaient des vêtements, elle a surnagé, si vous voulez. Elle a surnagé, et les femmes sont galopées à la sortie du pont, au jardin actuellement, et c'est à... Là où il sort, quoi, disons. Juste avant qu'il se re-rentre dans le sous-terre, d'ailleurs. Et ils l'ont trouvée là.
En vie.
Et oui, elle était vivante, parfaite. Et elle a donné même de la descendance... C'était au tout début du canal, en 1868-69, dans ces eaux-là, tout de suite. Et aussitôt, ils avaient implanté deux piquets à l'entrée du pont, à l'entrée du canal sous le pont, pour que ça ne se reproduise pas.
On est né avec le canal, on l'a toujours vu.
Claude Harvieux.
Ça fait partie de... du patrimoine, c'est mes grands mots, mais on a toujours dans la maison, mes grands-parents, mes parents, toujours parlé, le canal, c'était toujours la discussion, on a du printemps jusqu'à l'automne, quand est-ce qu'on a l'eau, qu'est-ce qu'on va faire à ce champ, qu'est-ce qu'on va faire, c'était toujours, la chose de vital, presque pour la famille, on sentait que c'était vital pour la maison, pour la famille. C'était un peu la survie. On survivait grâce au canal un peu. Malgré qu'il y avait toujours C'était pas la majorité des terres qui étaient irrosables, mais ça ferait le peu qu'il y avait, c'était. On faisait un carré de patates à tel endroit, c'était sûr, un tant de kilos de patates, on semait 100 kilos, 150, on le maïs à tel endroit, puis enfin, c'était toujours des betteraves pour les cochons. Il y avait toujours un carré réservé, vraiment, et puis il faut que ce soit arrosable facilement, et tout, c'était vraiment le.
L'eau glisse sur le pont, elle fait glou-glou. La grenouille fait plongeon, elle fait plouf-plouf. Le canal est leur maison, tout autour de nous. Ce canal est un trésor pour Montlore.
Dissonance, les 150 ans du canal de Montlore.
Elle déjeune puis s'habille, elle trotte et galope. Elle arrose nos jardins, l'eau caresse les cailloux et câline les poissons. Dans son lit, elle fait des bulles, le canal est somnambule. Ce canal est un trésor pour Montlore.
Ah, et quand le canal s'ouvre, c'est vrai que...
Yves Guiraud.
Ça annonce le beau temps et le travail des jardins.
Dès qu'on parle d'entretien du canal, le mois de mars-avril, déjà ça y est, le printemps arrive, c'est... Ouais, il y a plein d'été, on est content d'ouvrir la vanne, d'avoir de la volonté, c'est... Et puis bon, et quand on coupe l'eau au canal au mois d'octobre, novembre, ça y est, c'est l'automne. Hein. Et même fait, c'est vrai que...
L'hiver, on coupe l'eau, ça a toujours été comme ça. Et par contre, ça a quand même une autre fonction. Quand il pleut beaucoup, ça récupère aussi l'eau de un peu des champs, et donc ça sert aussi de drainage pour les champs.
Et à quel moment de l'année vous allez commencer à l'ouvrir et le mettre en fonctionnement?
Ben, on le met début mai, en principe le 1er mai, et vers, on arrête vers la Toussaint, par là, suivant le temps qu'il fait. S'il pleut beaucoup, on l'arrête avant, sinon, pour qu'il fonctionne, il y a un entretien minimum. Déjà, nettoyage, couper les roches qui poussent autour, et après, bon, il y a toujours, il se dégrade toujours un peu, donc il y a toujours des travaux à faire, plus ou moins importants. Alors, on se retrouve courant avril pour faire le nettoyage. Il y a plusieurs jours, enfin un jour, oui. On passe d'abord pour couper. Ensuite, on repasse, souvent on le fait le samedi matin pour les gens qui travaillent à l'extérieur, qui puissent venir pour nettoyer. On le nettoie et comme ça, qu'ils soient prêts pour le 1er mai à mettre à l'eau.
J'ai essayé de me rappeler un peu, de remémorer un peu l'historique de l'entretien des canaux. Il y a eu de sacrés changements au niveau de l'entretien. Moi, au début que j'ai connu le canal, le canal était fait par l'entreprise, enfin, ou par un particulier qui le prenait à charge, enfin, en adjudication, et qui faisait le canal. Après, dans les années 70-75, par là, je me rappelle, donc, pendant 7-8 ans, j'ai participé à l'entretien du canal. Et c'était enfin, du bénévolat, mais rémunéré. Mais bon, ça a duré un temps. Après, on est revenu à l'entreprise. Les années 80, jusqu'à ce que M. Canac arrive, on met tout l'argent, enfin, on met le moyen pour faire la chaussée, mais on n'a plus le moyen pour faire l'entretien. Donc, c'est là où est reparti le bénévolat et qui depuis dure.
Voilà. Mon papa, il a creusé le canal, là. Il a recreusé.
Pour le nettoyer?
Oui.
Et Yves, il y a de la fourche, il ramasse l'herbe qu'a coupé Gégé. Et après, il y a un autre outil là-bas, il manque un monsieur. Avec la pelle, il tire les cailloux, le peu de terre qu'il y a au fond. Voilà.
Petite bonne femme et le petit bonhomme s'aimaient bien tous les deux, ils vécurent à deux, se sont dit tous les deux, moins monotone, ce sera de vivre à deux, deux, vivre entre quatre yeux, c'est pas toujours heureux. Petit bonhomme, referme les yeux. We'll be right back.
cette bonne femme et le petit bonhomme. Sa vie comme ça peut, peu importe si un peu, c'est déjà un petit peu. Si ça chantonne, c'est que sa vie un peu, peu, peu. Peut-être que tous les deux, entre nos quatre yeux, le vent qui sonne nous réveille un peu. C'était dit, c'était dit, plantons nos radis.
Mais comment vous faites pour tout nettoyer, parce que il est vraiment long.
Mais disons qu'on vient à plusieurs matinées, à plusieurs, et on nettoie tout le mois d'avril. On fait ça. On coupe une semaine et le samedi, on cure. Donc on se retrouve une dizaine à peu près chaque fois. Et on nettoie.
Demain,
il y a 10 km. Hein.
Demain, vous allez curer.
Oh non, mais là, c'est fini, là, maintenant. C'est que l'air, on l'a repoussé depuis. Mais bon. Là, maintenant, on le laisse comme ça jusqu'à la fin de la saison. Cette année, c'est un peu particulier parce qu'il a tellement plu, l'herbe, elle pousse.
Oui, oui, c'est ça qui est un peu encombrant pour l'eau.
Et normalement, on le nettoie qu'une fois par an, sauf s'il y a des grosses crues et que ça le bouche. Oui. L'été aussi, quand il fait chaud, surtout cette partie, c'est au soleil. Et il y a des algues qui se font. Alors entre un peu l'herbe et les algues, ça bouche, ça freine l'eau. Alors on y repasse un coup l'été.
D'accord.
J'ai vraiment connu le canal quand j'ai eu 16, 14, 15 ans ou 16 ans, quand j'ai commencé de participer à l'entretien. C'est là que j'ai, je pense à ce moment-là, que j'ai vraiment connu. Je savais que ça existait, mais je ne me posais pas la question. C'était presque naturel qu'il y ait le canal. D'ailleurs, pour anecdote, l'autre jour, je suis allé parler du canal à l'école à Montlot. Mais tous les gamins, et une question sur deux, ça a duré pas une heure, une question sur deux, c'était comment il y avait l'eau, comment on faisait pour avoir, pourquoi il y avait le canal, comment on faisait pour mettre le canal. J'ai beau expliquer qu'il y avait un barrage, tous ces dérivés. Mais on revenait 5 minutes après, on y revenait. D'ailleurs, on allait faire une randonnée au mois de mai, quand il y aura le canal, jusqu'à la chaussée, en pique-nique, pour faire vraiment leur faire voir comment on a mollo le canal. Parce que pour les gamins, c'est vrai, je pense que moi, quand j'étais gamin, c'était pareil. C'était naturel qu'il y ait le canal, mais comment elle arrive au canal, c'est un peu le mystère.
Alors là, on est au Moulin Vieux. On dit que le canal il part du Moulin Vieux, oui, mais un peu plus loin encore, à 200 mètres, là on va monter, on va voir le départ du canal. Et le canal, c'est vrai que de là, du ruisseau, on ne le voit plus.
La source du Dourdou, c'est dans la montagne.
L'eau du Dourdou. Ah, tu savais que c'était le Dourdou? Moi, je ne savais pas.
Si.
Et le Dourdou, il prend sa source où? Qui c'est qui peut me le dire?
À la montagne.
Oui. Oui, quelle montagne? Ça s'appelle la montagne de l'Espinouse.
Oui, l'Espinouse.
C'est loin. Et la source du Dourdou, elle est à 1080 mètres. Et le Dourdou, il fait 86 km de long.
Dissonance, les 150 ans du canal de Montlaur. Se rappeler ce canal, c'est en transmettre l'histoire aux générations futures.
Elle arrose le jardin, mon jardin. Maurice sur le pont, elle fait loulou. La grenouille en fait plongeant, elle fait pouf pouf. Le canal est leur maison, tout autour de nous. Ce canal est un trésor pour mon lot.
Peut-être que dans 10 ans, on pourra plus le faire. Alors, j'espère que vous allez nous remplacer.
On la relève, nous. Hein.
Elle est là, la relève. Elle est là.
Voilà. Un truc brillant.
Parce que c'est bien beau, les jardins. Les jardins de l'école. Si l'eau, elle arrive. Eh, c'est grâce à qui? Aux bénévoles qui nettoient le canal.
Maman,
et alors, quand on va revenir, l'eau, elle va passer là. On va aller ouvrir là-haut, on va plus les nettoyer.
Vous voyez, la manivelle, elle sert à quoi?
Oui.
Elle démultiplie, ça monte. Là, l'eau va sortir de ce côté. Elle sort là-bas, l'eau. Donc la chaussée détourne l'eau, ici, du côté droit du Dourdou. Il amène dans le canal. Maintenant, il va envoyer l'eau dans le canal. Il va ouvrir cette vanne. Oui. Il contrôle tout. Ou les crans. Parce que tu vois l'eau qu'on veut.
Ça y est, le canal.
La voile passer là.
Allez, vous allez bien.
Ah. Alors, vous avez compris maintenant comment arrive l'eau?
On est en train de regarder. Comment l'eau circule dans le canal et où elle va, tout ça.
Tu peux me dire d'où vient l'eau?
Elle vient du Dourdou.
Et qui c'est qui l'a laissé rentrer dans le canal?
Yves, il a ouvert une plaque et il a tourné avec une manivelle. Il a fait monter le parier.
Dissonance, les 150 ans du canal de Montlaur.
L'eau caresse les cailloux et câline les poissons.
Décrire ce canal, Le canal de Montlaur, c'est le donner à connaître, à en faire découvrir son charme, son tracé, son environnement, sa flore, sa faune, sa musique aussi, et les ouvrages d'art qui le jalonnent, comme ce fameux pont canal de Montlaur.
Si vous voulez, on voit qu'il y a eu un glissement de l'utilisation de l'eau de l'agriculture vers l'horticulture, pratiquement les jardins.
Et maintenant, pour vous, Monsieur Louis, quel est le devenir de ce canal? Quel peut-il être?
Ah, alors, si vous voulez, je veux...
Déjà, vous voulez toujours qu'il perdure, quand même.
Moi, ça, le canal, je suis... Parce que je suis mon lauré, c'est tout, oui. Le canal a failli disparaître en 1982. À la crue de 1982, le pont est descendu d'une bonne vingtaine de centimètres. Il y a une pile qui s'est enfoncée. D'ailleurs, on le voit très bien. Et le canal s'est arrêté parce qu'il ne pouvait plus passer. Bon. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à l'époque, c'était Maurice Hervieux, là, qui était maire de Montlaur. Le pont avait fléchi, donc on a fait venir des gens pour étudier. Les gens, c'est le CTDEX, et qui ont dit, bon, ben, il y a deux solutions. Ou on fait un pont moderne, et on met on fait un pont en béton armé, et qui laissera passer toute l'eau qu'on voudra, hein, et ou on réhabilite le pont actuel. Alors, gros problème. Il y avait encore la querelle des anciennes et modernes. Bon, et Maurice a tenu bon, il a dit non, on garde le pont. Et il avait raison. À mon sens, il avait raison. Et puis quand même, il a une certaine allure, ce pont. C'est pas n'importe quoi. Et le canal a été rétabli. Voilà. Et on peut arroser les jardins. Sinon, vous voyez, un moteur envoyer de l'eau dans le canal, rien que pour réalimenter des jardins, ça n'aurait pas survécu. Tandis que là...
Ce canal parle beaucoup aux gens de Montlaur, ceux qui sont nés, ceux qui vivent aussi. Est-ce qu'il peut parler aux gens extérieurs?
Oui, je pense, parce que c'est dit, quand on voit des gens, quand on est dans les jardins, des gens qui s'intéressent, comment on a l'eau, comment ils vont tourner un robinet ou un tuyau, et les gens qui s'intéressent, ils passent dans le pont, les gens qui se voient, qui passent dans le pont, qui voient un canal qui rentre un bout et qui ressort l'autre, pourquoi? Comment ça se fait que... C'est un pont aqueduc, c'est quand même pas courant, donc ça va quand même poser des questions.
Claude Hervieux, toi qui es animateur de randonnée pédestre, tu penses pas que tu pourrais imaginer un sentier du canal?
Le sentier du canal existe déjà, en partie. Bon, il était prévu à une époque un peu de le rallonger, de le faire passer sur les jardins, continuer jusqu'à la plaine, mais bon... Alors, il y a un problème de passage dans des propriétés privées, il y a toutes les histoires des aqueducs, dans le village, ce n'est pas évident. Mais bon, il y a la sixième randonnée qui part de Montlaur jusqu'au Moulin Vieux, ça fait un joli sentier de randonnée quand même. Avec leur magnifique pont canal, ils irriguent les deux rives du Durdou. Près de 11 km de canaux en service, ils amènent l'eau partout. Ces ouvrages, ils ont creusé, maçonné, se sont tués à la tâche, les anciens. L'eau, c'est la vie, elle est là, elle améliore leur bien-être au quotidien. Chaque génération a participé pour conserver ces canaux, usant bottes, pelles, pioches, s'échinant à mener l'eau. De ces réalisations construites par nos aïeux, toutes n'ont pas résisté. Aux évolutions de l'agriculture, aux intempéries, des canaux se sont désistés. Mais tout de même, des ouvrages d'art entier se sont maintenus. Nous voilà devant le site remarquable des Arkinals, l'un des plus connus. Cet aqueduc qui a servi longtemps à irriguer les cultures, devenu sentier de randonnée, va servir à user nos chaussures.
Dissonance, les 150 ans du canal de Mont-Lor.
J'habite en plein cœur de Paris, au bord du canal Saint-Martin. Un rez-de-chaussée quai de Valmy, sans balcon ni petit jardin. C'est pas la mer malgré les mouettes, la pointe du rat sans les embruns. Faut savoir faire des sacrifices quand on veut rester parisien. Douze mois par an, je suis au grand air, au bord du canal Saint-Martin. Je regarde passer les amants et les pigeons main dans la main. De la fenêtre de ma chambre, je compte les touristes sur les bateaux. J'oublie une heure que je vis autant au bord du gouffre qu'au bord de l'eau. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins. Pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins. Sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin. Poussant ses vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. J'ai une jolie tente en plastique au bord du canal Saint-Martin, plantée sur des pavés sans plage, avec un campeur pour voisin. J'aurais peut-être pu faire flic, je suis pas chômeur à ce point. En tout cas pas homme politique, j'aurais peur de blesser quelqu'un. Je suis parfois illusionniste, une espèce de magicien. Lorsqu'en hiver il fait trop froid, je souffle doucement sur mes mains. Dans la fumée des caméras, les journalistes du Parisien. La poudre aux yeux pour pas finir au fond du canal Saint-Martin. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins. Pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins. Sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin. Poussant ses vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. J'habite en plein cœur de Paris, au bord du canal Saint-Martin.
Un rez-de-chaussée quai de Valmy,
sans balcon ni petit jardin.
Dissonance.
Ce canal est un trésor pour Mont-Lor.
Faire revivre ce canal, c'est vous donner envie de venir le découvrir le 15 septembre 2018 à Mont-Lor. Ce 15 septembre 2018, dans le cadre de la Journée du patrimoine, Mont-Lor fête les 150 ans de son canal. Au programme des visites, de la découverte commentée, des expositions, une conférence, un apéritif et repas champêtre. Et aussi, vous pourrez trouver un livre écrit par M. Robert Louis et vendu au profit de l'ASA Canal de Mont-Lor qui explique tout l'historique du canal. Sinon, en détail, le 15 septembre... Au programme, ce jour-là, à Mont-Lor, à partir du point de rendez-vous qui est la salle des fêtes du village où un parking est mis à disposition, il y aura à 9h une promenade accompagnée et commentée depuis la chaussée avec mise en eau du canal en suivant celui-ci jusqu'au village. Toujours à 9h, ouverture de l'exposition permanente, le canal d'hier et d'aujourd'hui, faune et flore spécifiques. À midi, sur les rives du Dourdou, apéritif suivi du repas tiré du sac. À 14h30, exposé-conférence de Christian Chêne sur l'eau dans notre Rougier. À 15h30, reportage des enfants avec chansons et réalisations. À 16h30, goûter. Et à 18h, clôture.
Tu t'investis dans cet anniversaire, là, les 150 ans. Pourquoi ? Quelle est ta motivation profonde ?
Mais parce que ça fait partie du patrimoine et que je trouve que c'est dommage de laisser tomber tous ces trucs-là. C'est utile. Bon, moi, déjà, je suis jardinière, donc comme ça m'est utile, ben, je ne veux pas le laisser tomber, quoi, c'est tout. Mais ce que je trouve dommage, par exemple, c'est quand même qu'il n'y ait pas trop de jeunes derrière nous, quoi, des jeunes de 40, même 50 ans, puisque moi, j'en ai bientôt 70, ne suivent pas trop. Quoi. Et je trouve ça fort dommage. Mais je me dis que peut-être que si nous, on s'investit, ça va peut-être leur donner l'idée de se bouger, peut-être. Sinon, le canal, dans 20 ans, il ne sera plus là, quoi.
Ah, tu penses que si jamais il n'y a pas une prise de conscience, il peut être amené à disparaître ?
Ben oui, parce que s'il n'est pas entretenu, il va disparaître, hein. Ça c'est sûr. Hein. Si on n'envisage pas d'entretenir, parce que c'est un sacré boulot, tous les printemps, demande aux gars qui vont curer le canal. Bon, mais même s'il y a des machines qui viennent, il faut les payer, donc il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe.
Donc tu penses que la manifestation de septembre...
Peut réveiller les consciences et faire reprendre... Oui, faire prendre conscience aux gens que c'est utile et qu'il faut un petit peu s'investir, qu'on soit homme ou femme.
C'est plus nos agriculteurs qui le font vivre, c'est vraiment les jardiniers. Et c'est une fois de plus, ça n'est qu'un problème affectif. Ça va devenir un seul problème affectif. On aime ça, on aime l'or, donc on aime ce bout-là, ou on veut le garder ou on ne veut pas le garder.
Donc tout l'intérêt de faire cette action au mois de septembre. Ouais.
Il faut le faire aimer aux autres. Il faut faire quelque chose quoi, pour que les gens comprennent que finalement le canal, c'est OK, c'est de l'eau. C'est bien, ça fait pousser des patates, ça fait pousser des tomates, c'est la vie. Ouais. Mais il y a autre chose derrière, quoi. Il faut que ce soit le lien. Quoi. Il faut s'accrocher à quelque chose. Quoi.
Il y a tout un passé, parce que le canal, c'est aussi une histoire, et c'est aussi une architecture et des monuments, avec ce pont canal.
Mais ça fait partie d'un tout. Quand on ne veut pas que quelque chose disparaisse, c'est parce qu'on aime. Et donc ça va devenir. Pour moi, c'est ça. Quoi. Ces 150 ans, c'est important de parce que je pense que les décisions que l'on devra prendre en suivant, c'est faudra pas probablement, je sais pas quand, je sais pas comment, mais il faut que ce canal devienne autre chose que de l'arrosage et du patrimoine. C'est-à-dire qu'il va falloir créer, je sais pas, des chemins de randonnée tout le long. Il va falloir imaginer quelque chose qui fasse qu'on ne soit pas les seuls, nous, Mont-Lauré, à dire c'est bon, il faut garder. Il faut que partout ailleurs, sitôt qu'il y a du patrimoine, c'est finalement, c'est pas forcément les locaux qui le font vivre, c'est aussi ceux qui disent, ceux qui viennent à côté et qui viennent dire « ouais, mais ça, il faut le garder ». Et du coup, ça fait une motivation psychologique supplémentaire et ça peut amener un peu de droit. Enfin, bon, voilà. Donc je crois que, je sais pas quand, je sais pas comment, mais ce serait bien qu'il y en ait qui viennent pousser pour que, après ces 150 ans, dire « ouais, vous avez raison, mais ça ne faut pas que ça serve qu'à arroser ». Si on veut le garder, il va falloir trouver d'autres motivations que « ah ouais, j'adore », et ça arrose mes légumes. Ça, il faut aussi que ça vienne sur les côtés. Parce que sinon, ça va rester entre Mont-Lauré. Je pense que bon, c'est moins pérenne que si c'était élargi. S'il ne peut pas être Mont-Lauré, le 109, alors on le cherche ailleurs. Et alors peut-être que dans 50 ans, je ne serai plus là, mais on sera dans un autre monde et on verra des gens venir marcher dans le Rouget. De toute manière, il va faire de plus en plus sec. Ça, c'est moi, je suis particulièrement persuadé. Le coin va devenir sahélique, je ne sais pas quoi vous dire. On va se croire avec la latérite, on se croira en Afrique ou je ne sais pas où. Et je suis sûr que ça va. Moi, je suis tombé amoureux. Je ne suis pas d'ici, donc je suis tombé amoureux de ces coins parce que la terre est rouge, parce qu'il y a du contraste. Et je suis sûr que s'il y a des petits trucs comme ça partout, à Camarès, à Mont-Laure, des choses qui rappellent le passé, mais qui s'inscrivent tout à fait en... Quand on va à l'étranger, quand on va en Afrique, on dit, vous avez vu le système d'irrigation qu'ils avaient, hein? Et quand on va en Tunisie, qu'on plonge dans les... Mais ça nous intéresse, ça nous interpelle. Et donc là, il faut que ce soit pareil. Il faut que des gens viennent voir ce qu'on a fait, parce que c'est sec partout, c'est extraordinaire, et ils faisaient ça. Et ça continue.
Et en septembre, il va y avoir une fête autour de ce canal.
Ah oui.
Quel est pour vous le but de cette fête? Qu'est-ce que vous en espérez?
Ah, moi, c'est 150 ans, c'est quand même... Une date qu'il faut marquer. Moi, quand j'ai pris le canal, j'en rêvais. Je disais, tiens, ça serait bien de fêter les 150 ans du canal. Et je vois qu'on y est. Je pensais pas y être, mais enfin, je vois qu'on y est. Et du coup, il se trouve qu'à cette occasion, on va certainement rééditer le livre que j'avais produit à l'époque.
Qui a pour titre, vous pouvez nous le dire?
Ah, ça, c'est Petite histoire du canal de Mont-Laure, et il va être rajouté en complément, édition du 150e anniversaire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que personnellement, ça n'est pas mon compte que je le fais, c'est pour le canal. Moi, j'en garderai peut-être une dizaine d'exemplaires, mais pour mon utilisation personnelle et mes amis, mais je cède au canal la diffusion et éventuellement, si ça peut rapporter quelque argent pour faire quelques réparations dans quelques coins. Voilà.
Et une dernière question, Monsieur Louis, vous allez intervenir, vous êtes intervenu auprès des enfants de l'école de Mont-Laur. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils en fassent de ce canal plus tard ?
Ah, mais qu'ils le conservent surtout. Et ce qui serait important, c'est que ce canal vive encore au moins 150 ans. Voilà. Et ça sera déjà pas mal. Moi, je pense qu'il peut vivre. Il peut vivre avec un peu de bonne volonté des gens. Quand j'ai repris le canal, je vous ai dit que c'était pour moi un bénévolat et qu'il faut que ce soit toujours dans ce même esprit qu'on... D'ailleurs, si j'avais gardé la présidence du canal, je l'aurais fait inscrire le bénévolat dans le règlement du canal. Parce que j'estime que c'est pas d'une autre manière qu'on le fera vivre. C'est comme ça. Voilà. Moi, c'est ma conviction. Et je vois que pour le moment, ça fait quand même 20 ans que ça marche. Même plus, puisqu'on a commencé avec le bénévolat en 95. Donc ça fait déjà plus de 20 ans que ça marche. Il n'y a pas de raison que tant qu'il y aura... des gens convaincus de l'intérêt de ce canal et de son utilité parce qu'il est utile. Et la preuve, c'est qu'on amène l'eau jusqu'au Moulin Neuf et les gens s'en servent au Moulin Neuf. Donc il est utile sur tout son parcours. L'été, on voit des agriculteurs s'en servir dans la plaine des Bottes ou ailleurs où ils ont l'eau à proximité et ils s'en servent. Bon, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le maintenir. C'est pas parce que pendant par la force des choses, disons, l'utilisation a varié qu'on ne peut pas justifier l'exil, le faire mourir. Voilà. Donc il vivra.
Un grand merci à Jackie, Francis, Robert, Yves et Claude, ainsi que tous les enfants de la classe de Stéphanie de l'école de Mont-Laur, mais aussi un grand merci à Naudi et à Jean de l'équipe des papilles mamie jardiniers de Mont-Laur, ainsi qu'aux membres de l'ASA du canal qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Sur la page internet de Radio Sainte-Afrique, vous trouverez des liens vous permettant d'approfondir ce sujet et notamment d'y découvrir le programme de la journée du 15 septembre à Mont-Laur pour la fête des 150 ans du canal. Cette émission sera rediffusée samedi 25 août à 16h, puis mardi 28 août à 18h et samedi 1er septembre à 16h.
Salut.
Et fraternité.